commence en va compter les gens, vous et puis bien d'autres Françaises et Français, puisque le recensement annuel de la population a commencé jeudi et il dure jusqu'au 26 février. C'est toujours un travail mené par l'INSEE. Tristan Picard, le chef du service statistique à l'INSEE Bretagne, nous explique tout en commençant par la méthode qui est appliquée depuis 2004.
Depuis 2004, le principe, c'est que le recensement a lieu tous les ans. Et donc pour les communes de moins de 10 000 habitants, en fait, on les a réparties en 5 groupes. C'est-à-dire qu'on va recenser 1/5 des communes chaque année. Donc quand on les recense, c'est l'intégralité de la population qui est recensée. Alors que pour les communes de plus de 10 000 habitants, en fait, le recensement a lieu dans ces communes tous les ans, mais on va seulement recenser en fait 8% des logements de la commune.
Et alors, la pandémie a eu un impact, bien sûr. Quel a-t-il été ?
Ce qui s'est passé, c'est qu'on a l'INSEE, en accord avec les communes, a fait le choix de reporter la collecte du recensement en 2021. Pour 2020, il n'y a pas eu de souci, hein, parce que le recensement, la collecte a lieu au début de l'année. Mais pour 2021, on était en plein deuxième confinement. Et donc le choix a été fait de décaler la collecte, car on estimait que les opérations de préparation de la collecte avaient été trop perturbées par la pandémie. Et donc on a réfléchi en fait à mettre en place un système qui a permis de diffuser des populations légales donc fin décembre 2021, donc en s'appuyant notamment sur des données administratives. Mais ce système qui nous a permis quand même de publier des données, on ne peut pas se permettre de le refaire une année de plus. Donc c'est pour ça que même si la pandémie est encore présente, on refait une collecte en 2022.
Et à plus long terme, est-ce que la pandémie a apporté des modifications qui vont durer dans le temps, même à la marge, sur la méthode de collecte ou pas ?
Alors, il s'avère qu'on a une nouvelle méthode de collecte qu'on déploie cette année, mais qui était déjà dans les cartons avant la pandémie. Elle était en test, en fait, depuis 2019. En fait, ce qui se passe, c'est que pour les maisons, en fait, auparavant, dans le recensement, le principe, c'est que l'agent censeur se déplaçait dans l'ensemble des logements. Il rencontrait les habitants et là, il leur proposait soit de répondre par Internet avec la notice, avec les codes Internet, soit il leur donnait des questionnaires papier. Ok, ensuite, il revenait les chercher quelques jours plus tard, une fois que les habitants l'avaient rempli. Et là, maintenant, ce qu'on fait, c'est que pour les maisons individuelles, l'agent censeur, les premiers jours de collecte, il va déposer directement dans les boîtes aux lettres la notice avec les codes qui permettent de répondre sur le site Internet, le recensement et moi. Donc, ça va permettre une sorte de collecte sans contact, j'ai envie de dire, qui est d'autant plus adapté à la crise sanitaire. Mais encore une fois, c'est un projet qui était avancé avant l'arrivée du Covid.
Mais si jamais on croise un agent recenseur néanmoins, comment est-ce qu'on le reconnaît ?
Donc un agent recenseur, bon, de toute façon, la majeure partie de la population le croisera, hein, parce que sinon les gens qui vivent en immeuble ou dans une maison qui n'est pas identifiable par une boîte aux lettres seront en contact avec un agent recenseur. Donc l'agent recenseur, il est reconnaissable avec sa carte d'agent recenseur, donc une carte bleu-blanc-rouge, qui est signée par le maire. Donc c'est un élément qui est vraiment important parce que c'est vrai qu'on a été au courant dans certaines années de personnes qui se faisaient passer pour des agents recenseurs pour diverses escroqueries. Donc un agent recenseur a forcément sa carte d'agent recenseur.
Vous avez aussi pris en compte dans le recensement les habitats qu'on dit nomades, éphémères. Comment est-ce que vous procédez dans ces cas-là ?
Donc effectivement, donc dans les communes de plus de 10 000 habitants, on fait le recensement des habitations mobiles et des sans-abri en 2022. Dans les petites communes, en fait, on le fait à chaque fois qu'on fait le recensement. Donc le principe, c'est que ces habitations mobiles, ça peut être des personnes qui vivent par exemple dans des campings, dans des mobilhomes, dans des caravanes. Ça peut être des cas un peu plus originaux comme des yourtes par exemple, ou aussi des personnes qui vivent sur des bateaux. Et les personnes sans abri, donc c'est des personnes qui vivent à la rue ou qui sont dans des centres d'aide. Donc le principe, c'est que l'agent censeur, il fait d'abord une tournée de reconnaissance. Alors ça qui a lieu également pour les logements standards, donc ça c'est en amont de la collecte, qui permet déjà de repérer un peu les différents endroits où on peut recenser ces populations-là. Et la différence principale, en fait, c'est que pour les habitations mobiles et sans-abri, la collecte va avoir lieu uniquement le 20 et le 21 janvier. Et contrairement au principe de la collecte standard, où soit c'est réponse par Internet, soit on dépose le questionnaire, on vient le rechercher quelques jours plus tard, là on est plus sur de l'interview, c'est-à-dire l'agent censeur va demander aux personnes les informations qu'il faut remplir dans les questions en fait du recensement.
Comment est-ce qu'on fait pour répondre de façon classique, c'est-à-dire sur papier ?
Donc pour répondre sur papier, en fait, l'agent recenseur va nous donner deux types de documents. Donc ce qu'on appelle une feuille de logement, sur laquelle on va répondre pour décrire un peu les caractéristiques des logements et surtout l'ensemble des habitants du logement. Et sur cette feuille de logement, on va aussi décrire pour chacune des personnes du logement quel lien de parenté ils ont en fait avec les différents membres du logement. Et ensuite, pour chacune des personnes présentes dans le logement, il va remplir un bulletin individuel. Donc là, il y a des informations sur sur la personne, sur son âge, sur est-ce qu'elle fait des études, est-ce qu'elle travaille, si elle travaille, dans quel type de travail, etc. Donc ça, c'est une feuille recto verso qui se remplit assez rapidement.
Et pour la version en ligne, comment ça se passe?
Donc pour la version en ligne, donc une fois qu'on a nos identifiants donnés, donc soit dans la boîte aux lettres, soit par l'agence censeur, on se connecte sur le site Le Recensement et Moi. Donc c'est un site qui présente aussi comment fonctionne le recensement, l'intérêt du recensement. Et puis donc il y a la possibilité de cliquer « Je veux répondre ». Et donc là, une fois qu'on répond, en fait, on est entièrement guidé. Donc il faut d'abord saisir donc les identifiants. Après, on va remplir un peu l'équivalent de la feuille de logement et des bulletins individuels. Sachant que l'avantage de la version en ligne, c'est qu'on nous pose les questions qui correspondent à notre situation. Et grosso modo, pour avoir un ordre d'idée, pour un couple de deux adultes avec deux enfants, ça représente à peu près un quart d'heure pour répondre.
Le questionnaire lui-même, vous l'avez un petit peu évoqué, mais je crois que vous avez fait évoluer un peu les questions elles-mêmes en raison des changements de société, en fait. Comment est-ce que vous prenez en compte ces changements ?
Il faut savoir que l'INSEE n'organise pas le recensement seul. Donc on est en lien bien sûr avec l'Association des maires de France, mais il y a aussi une commission en fait du recensement au niveau national qui associe différents acteurs. Et puis on est aussi en lien avec le CNIS, donc le Conseil National de l'Information Statistique, qui c'est un peu un lieu d'échange entre les statisticiens et la société civile pour prendre en compte en fait les problèmes de la société. Donc c'est vrai que la grande nouveauté finalement dans le questionnaire de cette année, c'est pour la version papier, parce que c'était déjà le cas dans la version internet, on prend mieux en compte en fait les familles homoparentales. Donc il faut savoir que quand je vous mentionnais que dans la feuille de logement, on demande le lien entre les différentes personnes du foyer, dans la précédente version de la feuille de logement, pour les enfants, on disait qui est son père ou qui est sa mère. Et donc on pouvait déclarer qu'un seul père ou qu'une seule mère pour chaque enfant. Alors que dans la nouvelle feuille, en fait, on demande qui sont ses parents. Ça permet donc de ne plus stigmatiser une part de la population. Et c'est vrai que c'était un sujet où à chaque recensement, ces dernières années, il y avait notamment des représentants d'associations qui critiquaient l'INSEE sur le fait que le bulletin ne prenait pas en compte ces réalités. Après, donc c'est un processus qui est un peu continu, hein, ces évolutions. Donc il y a quelques années, on a mieux pris en compte les enfants qui vivaient en garde alternée, parce que, pareil, encore une fois, c'est quelque chose qui est une réalité dans la société et il faut que le recensement puisse mieux prendre en compte. Et sur un autre domaine, quelques années plus tôt, on avait, dans les moyens de transport pour se rendre au travail, on avait isolé la composante vélo, alors qu'auparavant, elle était mélangée, c'était deux roues, qu'elles soient motorisées ou non. Et donc, suite à ça, on avait pu faire, par exemple, une publication sur les modes de transport pour aller au travail et où on avait pu mettre en lumière l'utilisation des vélos.
Est-ce qu'il y a des données qui, à l'inverse, vous intéressent plus, qui vous ont intéressé jadis?
Alors, ça, c'est une réflexion qui est en cours. Hein. C'est vrai que, notamment dans la feuille de logement, il y a certaines questions sur les caractéristiques du logement. Alors, je ne les ai plus précisément en tête, qui correspondent à des choses où, finalement, quasiment 100% des logements sont équipés. Donc, c'est vrai qu'il y a des réflexions en cours, hein, justement, pour faire évoluer le questionnaire, qui reviendrait à dire certaines questions qu'on pourrait supprimer, ce qui permettrait d'en rajouter d'autres, encore une fois, pour mieux prendre en compte l'évolution de la société.
Sur les résultats, alors, c'est un phénomène continu, puis il y a un temps de traitement des données, mais en gros, les résultats d'une commune à l'année 2022, ils seront connus quand, en fait, enfin, diffusés quand, en tout cas?
Alors, ce qui se passe, c'est que tous les ans, on va diffuser des populations légales de chaque commune. Donc c'est une opération qui a lieu en général la dernière semaine de décembre. Donc chaque commune a une population qui en fait est construite en utilisant les 5 dernières enquêtes de recensement. Donc ça veut dire que là on a diffusé donc fin décembre les populations en vigueur au 1er janvier 2022 et le millésime qu'on leur donne c'est le millésime 2019 parce que ça correspond aux 5 enquêtes de recensement. Parce que forcément une commune qui n'est pas recensée cette année par exemple aura quand même une nouvelle population à la fin de l'année.
Donc on ne peut pas encore vraiment sentir les effets, par exemple, s'il y en a eu de l'épidémie, c'est ça?
Alors, effectivement, les effets de la crise sanitaire, et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler hein, du fait qu'il y aurait une sorte d'exode urbain, pour l'instant, nous, on ne peut pas les voir, parce que, enfin, en tout cas, dans les populations légales, on ne peut pas les voir. Après, encore une fois, l'INSEE a vocation à pouvoir répondre aux questions de la société, et donc, au niveau national, là, c'est plus quelque chose qui se fait au niveau national. Il y a une réflexion qui a été enclenchée sur comment est-ce qu'on pourrait faire une première exploitation des données, finalement, pour voir si on voit déjà un phénomène qui se dessine. Mais encore une fois, les données vraiment les plus fiables, on les aura d'ici, on commencera à les voir d'ici 2-3 ans, grosso modo.
Pour ce qui est de l'obligation, donc il est obligatoire de répondre au recensement parce qu'il a une utilité, enfin plusieurs utilités. Quelles sont-elles ?
Donc les utilités du recensement, en fait, il y a vraiment trois grosses catégories. C'est la partie institutionnelle, donc ce soit au niveau de l'État pour pouvoir établir des politiques publiques. Parce que si on ne connaît pas la population sur laquelle on doit établir des politiques publiques, ben, c'est difficile d'organiser des choses. Au niveau des communes, c'est vraiment un apport qui est fondamental, parce que ça permet de connaître la population de la commune, ce qui détermine directement la dotation générale de fonctionnement que l'État donne à la commune. Donc c'est pour ça que ben, pour une commune, voir sa population augmenter ou diminuer, il y a vraiment un lien direct avec le budget de fonctionnement de la commune. Et puis bien sûr, ça permet pour la commune de savoir s'il faut construire de nouveaux équipements, que ce soit ben, des écoles, des services sportifs, etc. Il y a un deuxième groupe, c'est pour les utilisateurs, j'ai envie de dire les particuliers, que ce soit une entreprise, une association, ça permet de connaître le territoire. Donc je suis une entreprise qui veut m'installer, ben, ça me permet de voir finalement est-ce qu'il y a un marché pour le produit que je souhaite vendre. Et puis bien sûr, pour l'INSEE et les statisticiens, c'est l'utilisation des statistiques des données, où là, la plupart des études qu'on peut sortir au niveau local sont basées sur le recensement. Donc c'est vraiment une source fondamentale pour toutes les études locales.
Donc, vous pouvez consulter le site internet qui s'appelle Le Recensement et moi, si vous êtes concerné. Sachez que le recensement, c'est jusqu'au 26 février.